Il s'échappe. Une bulle de chuchotement hors du temps pour un chuchotement hors du temps pour toi, pour moi. S'oublier dans les confinements pour mieux s'oublier dans les autres pour mieux revenir à soi.
Bonjour à vous. Alors comment est-ce que ça va aujourd'hui? Vous vous sentez bien? Vous vous sentez un petit peu mieux? Ou est-ce que vous êtes dans le creux de la vague? Si je suis honnête, aujourd'hui, moi, je suis dans le creux de la vague. Aujourd'hui, j'y arrive pas. Et je pleure, mais c'est pas si grave. Ça fait vraiment du bien d'évacuer tout ça, je pense. Aujourd'hui, on va aller se réfugier dans l'histoire d'une femme assez particulière. C'est une histoire vraie. Mais avant ça, on va d'abord écouter un petit peu de musique. Alors nous voici partis avec Une femme en contre-jour de Gaël Josse. Un banc au bord du lac. Chicago, Rogers Park, décembre 2008. Sous le ciel blanc de ces derniers jours de décembre, Les goélands argentés et les canards cisaillaient l'air en piaillant au-dessus du lac de Michigan gelé. Une femme âgée, très âgée, les suit du regard. Elle est sortie malgré le froid, malgré la neige qui enserre la ville de son emprise depuis de longues semaines. Elle est venue s'asseoir, comme chaque jour, sur ce banc, son banc, face au lac. Pas trop longtemps, impossible de rester immobile par un tel froid. Ses pensées sont emmêlées, agitées comme le vol des oiseaux au-dessus du lac gelé qui cherchent des eaux encore libres de glace. Ce lac, comme une mer. On ne voit pas l'autre rive. Et si c'était la mer ? Peut-être le souvenir de quelques bateaux lui revient-il furtivement en mémoire. Mais comment savoir ? Tout vacille. La scène ressemble à une photo qu'elle aurait pu prendre. Composition parfaite, le banc avec ses deux arbres nus, de chaque côté, au garde-à-vous, figé dans l'engourdissement de l'hiver. Les lignes de fuite du lac en arrière-plan. Et cette vieille femme sur ce banc, dans son manteau informe, avec ses chaussures en cuir râpé. Ce chapeau de feutre abîmé par trop de pluie, trop de saisons. À côté d'elle, une boîte de conserve ouverte. La scène semble avoir été créée pour elle, en noir et blanc. Cette photo-là, elle ne la prendra pas. Elle n'en prend plus depuis longtemps. Où sont-ils ? Que sont-ils devenus d'ailleurs, tous ces clichés pris chaque jour pendant des dizaines d'années, par milliers, par dizaines de milliers ? Elle n'en a pas vu beaucoup. Tout dort dans des boîtes, des cartons, des valises, au fond d'un garde-meuble qu'elle n'a plus pu payer depuis des années, dont elle a oublié l'adresse. Tout a-t-il été jeté ou vendu ? C'est sans importance maintenant. C'est le passé. Un temps d'avant dont quelques fragments épars nagent peut-être dans l'océan, éténébrés d'une mémoire oscillante, furtivement embrassés par les instants. Comme sous les faisceaux d'un phare à éclat. Ses doigts raides, engourdis, ne presseront plus jamais le déclencheur. Ses yeux fatigués ne feront plus la mise au point. Ils ne chercheront plus le cadrage, la composition, l'éclairage, le sujet, le détail, l'instant parfait qu'il faut saisir avant qu'il ne disparaisse. Loving can hurt. Loving can hurt sometimes, but it's the only thing that I know. When it gets hard, you know it can get hard sometimes. It is the only thing that makes us feel alive. Keep this love in a photograph. We made these memories for ourselves, where our eyes are never closing, hearts are never broken, and time's forever frozen still. So you can keep me inside the pocket of your ripped jeans, holding me closer till our eyes meet. You won't never be alone. Wait for me to come home. Loving can heal. Loving can mend your soul. And it's the only thing that I know. No. I swear it will get easier. Us when we die. Keep this love in a photograph. We made these memories for ourselves, where our eyes are never closing, hearts were never broken, time's forever frozen still. So you can keep me
Under the lamppost back on 6th Street, hearing you whisper through the phone, wait for me to come home.
Transie, malgré cette envie qu'elle garde intacte d'être dehors, toujours, et d'aller devant elle. Plus de 50 ans qu'elle vit ici. Avant, ce fut New York, bien avant. Le froid, l'hiver, la neige, la glace, les ciels blancs, les étés brûlants dans leur éternel retour. Elle se lève, il est temps de rentrer. Son petit appartement de Rogers Park l'attend, à quelques minutes d'ici, dans cette banlieue au nord de la ville. Bon, il n'est guère chauffé, mais ça sera plus confortable. Elle mettra à bouillir un peu d'eau pour un thé ou un café. Elle étendra les mains au-dessus de la casserole pour les réchauffer. Elle regarde encore le ballet des oiseaux gris sur le lac, lève les yeux vers la lumière blanche et glacée. Pas de soleil aujourd'hui. Jour blanc. Le froid entrave un peu sa respiration, comme si des glaçons s'insinuaient dans ses poumons à chaque inspiration. Ses yeux glissent du lac aux arbres nus, aux équipements habituels, le parcours de santé et ses agrès. Les jeux d'enfants aux couleurs vives, les tables de pique-nique avec leurs bancs en bois arrimés au sol. Il n'y a pas d'enfants aujourd'hui. Peut-être viennent-ils parfois en mémoire, pour ceux qu'elle a photographiés au hasard des rues, des pays et ceux qu'elle a élevés. Elle s'éloigne de quelques pas, elle regarde toujours le lac, comme si il fallait encore déchiffrer quelque chose dans cette étendue glacée. Elle n'a pas vu la plaque de verglas sous ses pieds. Elle glisse, sa tête heurte le sol, absence. Où suis-je ? Puis une sirène d'ambulance transperce l'air, des bras solides la déposent sur un brancard, en prononce des paroles rassurantes, elle n'entend pas. « Ça va aller, madame, ça va aller, on s'occupe de vous. Hein. » Elle reprend conscience, se débat, s'agite, proteste, elle veut qu'on la laisse rentrer chez elle. « Rien de cassé, je vous dis !» Du regard, elle recherche de l'aide. Cet homme corpulent, là, à quelques pas, aux mains et aux poignets recouverts de tatouages, aux interminables moustaches de mandarin. Cet homme qu'elle croise chaque jour, avec qui elle bavarde, de tout, de rien, du temps qu'il fait, du prix du gaz. Elle l'appelle, le supplie du regard. Aidez-moi, je vous en prie, aidez-moi, ne me laissez pas m'emmener, je veux rentrer chez moi. En vain. Il la regarde, écarte ses mains impuissants, il ne sait même pas son nom. Et il ne la reverra pas. La femme qu'on emmène dans un hurlement de sirène s'appelle Viviane Meyer. Elle aura 83 ans le 1er février. Personne ne sait ici qui elle est. Une silhouette familière du quartier, une de celles qui semblent faire partie du lieu comme un élément de décor. Et un jour, ils ne sont plus là. On se fait la remarque, on s'interroge un instant et on oublie. Une vieille dame solitaire qui perd un peu la tête par moment, qui se montre encore drôle parfois et sacrément têtue. Les seuls qui pourraient en dire quelque chose, ce sont John, Matthew et Lane Gansberg, les trois frères que cette femme âgée a élevés pendant 17 ans. Aujourd'hui, ce sont eux qui paient son loyer. Ils ont même trouvé un petit logement lorsqu'ils l'ont découvert il y a quelques années plus tôt, dans l'indigence absolue, dans la détresse. Oui, leur ancienne nurse faisait les poubelles. À sa sortie de l'hôpital, ils l'installeront dans une maison de repos pour qu'elle guérisse sans avoir à se soucier de rien. La chute, le choc à la tête, les médecins ont prévenu. Vous savez, à cet âge-là, on peut rien faire. Nous ferons tout ce que nous pourrons. Pendant 4 mois, Viviane va errer entre conscience et inconscience dans cet état cotonneux, assourdi où se dénoue doucement l'échaveau de la vie, qui préfigure le grand sommeil. Puis, ce 26 avril 2009, elle ne verra pas ce printemps, cette reverdie qui s'épanouit derrière les fenêtres. La photo se brouille, devient floue, illisible. C'est fini. Sur leur lieu de leurs souvenirs, ils sont revenus disperser les cendres de leur ancienne gouvernante. Ils parlent peu. Puis ils rentrent. Les jours suivants, dans le Chicago Tribune, ils font publier l'avis d'obsèques, qu'ils ont rédigé ensemble, une touchante déclaration où ils esquissent en quelques lignes un portrait de celle qui vient de disparaître et disent qu'elle fut pour eux une seconde mère. Fin de l'histoire.
Je loue des chambres d'hôtel aux étages élevés. Je fixe les quelqu'un de ma fenêtre avant de les capturer. Je les habille de peut-être, c'est l'attraction de les sceller. Je photographie des gens heureux pour essayer de leur ressembler. J'admire cet éclat dans leurs yeux, l'étudie pour le développer. Je loue des chambres d'hôtel en étages élevés. J'aime les minois facétieux, leurs sourires écorchés. Maladroits, paresseux, fragiles ou réprimés. Je photographie des gens heureux. Sur le papier, leurs rayons se voient. Je ne trouve rien de plus précieux que cette étincelle ornée de soie. Mais si j'entreaperçois au travers de ma tête embuée l'ombre d'un orage au loin dans une maisonnée, je tire les rideaux et grimpe sur le toit. Regardez les photos, l'homo de toi et moi. Je photographie des gens heureux pour essayer de leur ressembler. J'admire cet éclat dans leurs yeux, l'étudie pour me le développer.
Puis c'est au tour du destin d'entrer en scène, sans violon, sans cuivre, ni cymbales, sans la fureur de la tempête ni le souffle du blizzard, mais silencieux et tapis derrière un écran d'ordinateur. Quelques jours plus tard, un jeune agent immobilier, John Maloff, s'installe à son bureau et saisit sur Google le nom de Viviane Meyer. Comme on lance les dés, en espérant un numéro vainqueur sans vraiment y croire. C'est le nom qu'il vient de trouver, par hasard, le seul, une fine trace au crayon sur une enveloppe, parmi tous les fracas de photos, planches de contact, pellicules non développées, négatifs, papiers entassés dans des cartons, qu'il a acquis dans une vente aux enchères 2 ans plus tôt, en 2007, pour $400. Mais quelle déception cet achat. Il n'y trouve pas ce qu'il cherche, des photos, des vieilles cartes postales de Portage Park, pour illustrer le livre qu'il projette d'écrire sur le quartier cosmopolite et excentré de Chicago. À ses heures perdues, et peut-être qu'il en a beaucoup dans ses années de récession immobilière, John Maloff préside une petite association d'histoire locale et s'est lancé dans ce projet. Les photos acquises ne lui serviront à rien. Dépité, il referme les cartons. $400 perdus. De temps à autre, pourtant, il rouvre une boîte, étale par terre quelques-uns des clichés, s'assied au milieu. Une ronde en noir et blanc, à l'infini. Une mer de visages. Certaines photos l'intriguent, le hantent peut-être. Tant de visages, d'instants de vie, d'inconnus qui semblent proches. Une bouleversante humanité y circule, et aussi une absolue maîtrise de la prise de vue. Le plus novice, le moins connaisseur du regard, ne peut être saisi par la densité, la force, l'unité de l'ensemble. par cet œil posé sur la vie, sur toutes ces histoires qui se dévoilent en un cliché. Histoire urbaine, dans le mouvement, dans la matière compacte de la ville. Le terrible, le tendre, le drôle, l'insolite, le vrai. Le presque rien qui révèle un destin. Et ce visage de femme, toujours le même, qui apparaît dans d'innombrables et étranges autoportraits. Parfois c'est seulement son ombre, son œil, son chapeau. Ou bien il faut la chercher, comme un jeu de piste dans un angle inattendu de l'image. Ou bien son visage se multiplie à l'infini dans des miroirs. Le modelé des pommettes, les cheveux courts retenus par une barrette qui dégage le front, les lèvres bien dessinées, les paupières un peu tombantes. Un visage comme un leitmotiv avec un regard grave, attentif, saisi et morcelé dans les miroirs d'un appartement ou d'une boutique, dans les vitrines, dans un rétroviseur, un enjoliveur de roues, une porte de bouton, un bouton de porte. Un regard posé, centré, qui jamais ne donne l'impression d'être aux aguets, de traquer quoi que ce soit. Et cette silhouette solide, plantée, austère, asexuée malgré les chemisiers à fleurettes. Jamais un sourire, une coquetterie, un bijou, rien qu'une extrême attention qui se joue dans le champ de l'image. Il n'y connaît rien, John Maloff, en photo, de son propre aveu. Ignare, il le revendique. Intuitif, sans aucun doute. Comment se faire une idée sur tout ce qu'il y a dans ce vrac ? Aucune indication sur l'auteur de ce travail. Aucune. Cette femme, peut-être ? Comment savoir ? Il a questionné la salle des ventes. On lui a répondu vaguement que ses affaires appartenaient à une vieille femme malade et sans argent qui ne veut pas être dérangée. Passez votre chemin. Ce jeune homme d'affaires de 25 ans, à l'allure étudiante, avec de trop grandes lunettes qui dévorent son visage étroit, veut savoir ce qu'il a dans les mains. C'est un garçon de son temps. C'est par Internet que les premières réponses vont lui parvenir. Il questionne les réseaux sociaux pour avoir un avis, se faire une opinion sur la possible valeur de ses photos. Au fil des mois, il poste quelques 200 clichés, accompagnés de questions naïves, maladroites. Quelqu'un peut-il me dire si ce travail est réellement intéressant ou si c'est quelque chose d'assez courant ? Dès les premiers envois, les réactions sont immédiates, éloquentes, enthousiastes.
Un bébé encadré sur une étagère. Un souvenir de vacances, un anniversaire. Une fille qui sourit coincée dans un sous-verre. Un cadre fantaisie, un bord de mer. Et personne ne bouge dans la tribu des yeux rouges. Tous différents, les mêmes photos pourtant. Les grands derrière, les petits devant. Quelques photos de couple exposées comme des preuves. Des photos de groupe, des amis qu'on punaise. On vérifie d'ailleurs l'air de rien chez les autres, qu'on fait partie des leurs, qu'à côté de leur tête y a la nôtre. Sur la cheminée du salon des grands-parents, le casting tout entier de tous les petits-enfants. Les grands derrière, les petits devant, les petits devant. Les albums familiaux sont les manuels d'histoire qu'on regarde jamais, qu'on réserve au placard. Quand il était jeune, quand était petit, quand elle était enceinte, quand ils étaient en vie. Portrait de fin d'année, des gosses trop bien peignés. On dirait vraiment qu'ils ont mangé du ciment. Les grands derrière, les petits devant. la photo censurée, elle s'y trouvait pas belle. Aussitôt développée, direct à la poubelle. Mignonne en paréo, au retour de la plage, elle enlèvera pas le haut. C'est dommage, le portrait qui fait rire, du permis de conduire, celui qui fait peur. Qu'est-ce que cette coiffure, qu'elle soit en couleur ou bien en noir et blanc. On fait tous, quelle horreur, les mêmes photos tout le temps. Les grands derrière, les petits devant. Qu'est-ce qui nous pousse au fond à refaire à la chaîne tous les mêmes photos qu'on a vues par centaines. Des photos de monuments qui sont jamais très belles, mais c'est nous qui l'a fait, c'est pas la carte postale. Les photos de voyage à l'autre bout de la terre, les mêmes paysages, des mêmes belvédères. Nous sur un chameau, nous au ski en hiver, renoue sur un bateau et les épices du souk du Caire. Re-renoue à Pâques, il y a 2 ans déjà, re-re-renoue à la Toussaint à côté des Crottats. C'est vrai qu'on voit pas bien que la photo est mauvaise, mais par la salle de bain, je te jure, on devinait les falaises. Et ces photos souvenirs qu'on se cache charmés, pour pas qu'on puisse nous dire qu'on n'a pas profité. Rangées dans un tiroir, celles qu'on veut plus voir, et classées dans des livres, les photos d'archives. J'ai encore jamais vu, et ça chez personne, sa copine toute nue au-dessus du téléphone. La photo de son patron dans aucun salon, mais des vues de bord de mer. Ah ça putain, c'était ça.
De toute évidence, ces clichés sont exceptionnels et font l'unanimité. On lui propose d'en acheter. Merci du partage, on voudrait en savoir plus. De quoi s'agit-il? Peut-on rencontrer cet artiste? Y a-t-il des expositions prévues? Malouf va même céder quelques clichés sur eBay. Il veut récupérer sa mise. Mais il finit par comprendre qu'il tient quelque chose de rare, de probablement unique. Un internaute, professeur d'art, attire son attention sur ce travail d'exception. Mais comment s'y retrouver dans ces milliers de photos, ces milliers de pellicules, ces milliers de planches de contact et tous ces films? Et rien de rien, pas le moindre indice pour savoir d'où ça vient, qui en est l'auteur. Qu'en faire? Comment s'y prendre? En compulsant une fois de plus cette accumulation de papier, il finit par découvrir un nom, à peine lisible sur une enveloppe. La première trace. Sa pierre de Rosette, Viviane Meyer. Rien d'autre. Nous sommes au premier jour du mois de mai de 2009. Coup d'œil discret sur l'écran, il redoute déjà la réponse, le néant. Peut-on imaginer l'accélération cardiaque qui est due à être la sienne lorsque ce jour-là sa réponse s'affiche? Une seule. C'est l'avis d'obsèques rédigé par les trois frères Gansberg, relayé sur le site du Chicago Tribune. Une Viviane Meyer vient de s'éteindre quelques jours plus tôt. La piste s'arrête donc là. Alors de quoi s'agit-il? Une nurse? Une bonne d'enfant? Il doit s'agir d'une invraisemblable coïncidence, une fausse piste, une erreur, homonymie. Quel lien possible? Qui est-elle? La mère, l'épouse, la sœur, la fille, une amie? Ou un simple nom? Un jour noté sur une enveloppe pour une raison anodine ou obscure, ou la photographe elle-même. La notice nécrologique fait allusion à aucune activité photographique. Mais tout cela est tout à fait improbable. Il devrait s'agir d'autre chose. Un innocent passe-temps? Quelques banales photos enjolivées par une mémoire et l'affection? John Malouf n'a rien à perdre. Il note le nom des auteurs du faire-part, trouve leur numéro de téléphone, appelle. Bonjour, je suis en possession de quelques 100 000 clichés pris par une certaine Viviane Meyer. Je crois que vous la connaissez. Peut-on se rencontrer? Il va leur exposer sa découverte, chercher à comprendre. Stupeur, sidération. De toute évidence, Viviane Meyer est bien l'auteur de toutes ces photos. Les trois frères s'en souviennent. Elle ne se séparait jamais de son appareil. Elle photographiait comme elle respirait, comme si sa vie en dépendait. Une sorte de troisième œil, ou un bouclier, ou les deux à la fois. Ils ont vu quelques-unes, oui, des photos, des fêtes, d'anniversaires, de menus d'événements, des choses comme ça, qu'elle leur avait parfois montrées ou offertes, mais rien de plus. De bonnes photos, assurément. Mais de là à dire que la photographe a du génie, aucune idée de ce qu'elle pouvait faire par ailleurs. Elle était si sincère, vous savez. Un peu bizarre aussi. Pas un caractère facile. Un peu dérangée aussi ces dernières années. Mais nous l'aimions vraiment. John Maloff tient une certitude, il a découvert, inventé selon l'expression consacrée, un trésor.
Jump slow, sans faire de scolastique, yo-yo pour un clip, le pied dans l'élastique, une technique du reg, quand le bed exerce leg, à mon collègue Oleg, le beat du bled. Les aigus tuent, demande à Brandon Lee, les basses barres prient, abandonnez Lee, pour être objectif, on atteint l'objectif, on scrute texte et mix au téléobjectif. Gel, flow, relax, sur le wax, fax, à fin tax, j'habille les tracks dans l'axe des peintres de sax, Pax Romana, grâce au son graphique, musicologique, révélateur photographique, c'est le concave, convexe, sans se fouler, j'ai déversé le premier verset, percé, et le mur du son, bercé par Kalsoum, danse, le beat tourne, je représente le zoom. Sur le beat, l'action anti-blabla, cocktail explosif, j'exécute l'attentat. Putsch musical, verbal, coup d'état. Parfois je revendique et sponsorise l'omerta. Je cours dans la ville, le mic dans la main droite. Je rappe, la bague me traque, discrètement je me sac. Je dois placer mon phrasé dans les points stratégiques, tel un pain de plastique à l'endroit névralgique. Puis le son pète dans les discothèques, des plagations de textes dans les bibliothèques. Terroriste drag queen, dangereux comme Moon, sismique tel la rune, je représente le zoom. J'articule mes particules, m'inspire des libellules pour changer la pellicule. Je suis un Leica inversé pour gaucher, autoportrait sacré, on m'a canonisé. J'ai gâché des péloches, avenue Foch, c'est moche, loupé le coche de mioche sur une roche, les mains dans les poches, pironné mes rotules outre-Atlantique. Clic, clac, il parle d'un son photogénique. Différent du reste, ancré dans ma contrée, Afro Parigo, dégagé des clichés. Car s'illumine Marceau, mime Marceau dans la boum, c'est clown, le beat tourne, je représente le zoom. Le zoom.
Début de l'histoire, John Maloff va en effet inventer Viviane Meyer, la relever au sens photographique du terme. Naissance et résurrection d'une artiste de génie, naissance d'une énigme. Il se rend compte qu'il est le dépositaire, le propriétaire de quelque chose d'exceptionnel. Le destin lui offre un conte de fées, une belle histoire, une vraie story qu'il pourrait s'attarder à écrire, à transformer, mais en success story. Il ne ménageait ni son temps, ni son énergie, ni son argent pour faire émerger, connaître et reconnaître l'œuvre de Viviane Meyer. Quel frémissement, quelle excitation à faire surgir toutes ces photos exceptionnelles, jamais vues, même pas par leur propre auteur. L'entreprise est titanesque. Il faut trier, classer des millions de vues, ses négatifs, examiner les planches de contact, développer les pellicules. Il faut sélectionner les photos, choisir les formats d'agrandissement, veiller à leur qualité, faire encadrer les meilleurs. Entre-temps, intuition ou précaution, John a acheté tout ce qu'il a pu trouver dans les garde-meubles. Il a aussi retrouvé d'autres acquéreurs de vente aux enchères de 2007, en a racheté leur lot. En 2010, un certain Fregelstein retrouva lui aussi l'un de ses acheteurs et récupéra 16 000 négatifs, 1000 tirages, 1500 diapos en couleur, 225 bobines de pellicule et 30 films de 16 mm. Il refusa quant à lui de les céder à John Malouf, qui, à son grand regret, ne pourra disposer de l'intégralité du fonds. De la naissance de Viviane Meyer, Goldstein chercha à exploiter l'œuvre de son côté, avec un site internet, un film et des albums. Le Lazare de John Malouf s'appelle Viviane Meyer. Mais c'est à un mur qu'il va se heurter dans son entreprise de résurrection. Nous voilà loin de l'enthousiasme spontané des internautes. Des « wow », des « amazing », des « thanks for sharing », des « handsome », les grands musées new-yorkais, le MoMA, les galeries d'art, le Tate Modern de Londres et tout le milieu de la photo lui refusent leur concours. Indifférence, ni prise de risque, ni curiosité. À cela un argument souverain, les réponses tombent formelles académiques. On lui explique que les tirages qui n'ont été ni sélectionnés, ni validés par leur auteur, n'ont aucune valeur et ne peuvent être pris en compte pour constituer une œuvre. Or, ceux réalisés par Viviane Meyer elle-même sont de médiocre qualité. John Malouf découvre les règles d'un jeu dont il ignore tout. La façon de faire, pragmatique, agaçante peut-être, on l'imagine agité et insistant, frappant aux portes, aux fenêtres, tirant les sonnettes. Le jeune agent immobilier est loin des codes feutrés de ce milieu où il figure d'intrus, de perturbateurs, de cousins de province aux chaussures boueuses, et au costume mal coupé. Le caméier embarrasse. Que faire des secrets d'une disparue, ayant elle-même vécu dans la plus totale invisibilité? Théâtre d'ombre, insaisissable royaume. Vertige. Il se montre tenace. Viviane Meyer, l'inconnue devant la clé de voûte, la pierre angulaire de sa vie. La femme l'obsède. On l'ignore. On fait la moue devant l'or qu'il tient dans les mains. Tant pis, il se passera des cautions et des circuits officiels. Il fait appel aux meilleurs professionnels pour réaliser des tirages de qualité et organise une exposition au Centre culturel de Chicago, en partie financée par ses ventes sur eBay. Il veut frapper fort. Il y croit. Comme un joueur, il a tout misé sur cette partie-là. La fortune sourit aux audacieux, dit-on. Devant le phénoménal succès de l'événement, aux représentations aussitôt planétaires, devant un engouement médiatique contagieux, il fait face et accompagne le mouvement avec ardeur. Sa chapelle de village est devenue cathédrale, basilique. Il engage 3 géologistes, crée un site internet, publie des livres d'art. Il remonte aux sources. Il va retrouver des témoins, d'anciens employeurs, des enfants naguère élevés par Viviane. Il part par des pistes sur des séjours en France, dans les territoires des Hautes-Alpes, le berceau familial de sa mère, où il rencontre des cousins de Viviane et offre au village une série de clichés qu'elle a pris là-bas. Il produit un documentaire, Finding Viviane Meyer, co-réalisé avec Charlie Siskel, où il se met largement en scène, racontant sa stupéfiante et inconcevable story avec un enthousiasme non dénué d'un sens aigu de la communication. Il faut aussi trier les possessions de Viviane trouvées dans les cartons, vêtements, chaussures, chapeaux, papiers et documents divers, vieux appareils photo, caméras. Il faut aussi faire développer les photos en couleur 35 mm, et les films, 8 et 16 mm. Écoutez les cassettes audio. La tâche est gigantesque. C'est entrer dans un monde foisonnant et fascinant. Un continent disparu, une Atlantide qui ressurgit. C'est aussi approcher peu à peu la personnalité de Viviane Meyer. Entrer dans une intimité qui ne peut plus rien faire savoir de ses vœux et de ses désirs. C'est aussi faire surgir des témoignages contrastés, troublants. Entrer dans une vie. Entrer dans une vie, c'est brasser des ténèbres, déranger des ombres, convoquer des fantômes. C'est interroger le vide et tendre l'oreille vers l'écho perdu. S'échapper. S'échapper. Peut-être que vous allez aller avoir envie de découvrir un peu son travail à cette magnifique Viviane Meyer. Vous pouvez retrouver des clichés très facilement sur Internet si vous en avez envie et le temps. Cette femme est une femme libre, une perdante magnifique qui a choisi de vivre les yeux grands ouverts. Alors je vous le souhaite de garder vos yeux à vous bien ouverts aussi. Je vous laisse en musique. On se retrouve demain et surtout, surtout prenez soin de vous.
Vous écoutez Globule Radio 90.5 FM.
Try this trick and spin it, yeah. Your head will collapse, but there's nothing in it. And you'll ask yourself, where is my mind? Where is my mind? Told me swears, trying to talk to me.